Bonjour à chacun, en ce dimanche un peu plus frais que certains matins de cette semaine. Bonjour aux membres de l'Église évangélique de Mérin et aux paroissiens de la région, puisque nous sommes en été et que nous nous réunissons, nous vivons nos cultes ensemble. Une bonne façon de passer l'été. Ce matin, c'est le pasteur Jean-Daniel Schneeberger, pasteur de la paroisse du Lignon, qui nous apportera le message. Dieu nous a précédés dans ce lieu par sa présence et c'est lui-même qui nous accueille chacun. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir mettre un temps à part pour toi, pour nous reposer en toi, pour se mettre à ton écoute. Donne-nous un cœur réceptif, rends-nous attentifs à ce que nous sommes et à ce que tu voudrais. La source de leur vie, de leur courage et de leur joie. Amen. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec nous tous ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Nous chantons « Seigneur, nous voici devant toi ». cette année, donc, le thème de nos cultes est l'arbre. Et ce matin, Jean-Daniel Schneeberger s'inspire d'un ovni, c'est-à-dire un objet végétal non identifié, plus connu sous le nom de ricin. Mais les commentateurs ne sont pas sûrs qu'il s'agisse d'un ricin. Le texte ne le dit pas expressément. Quand vous entendez ricin, vous pensez à qui ? Jonas, oui, un personnage haut en couleur. Dieu l'envoie dire aux Ninivites : j'en ai assez de vos mauvaises actions. Sur ce, Jonas affrète un navire. Il ne prend pas un navire en partance, il affrète un bateau exprès pour s'embarquer pour Ninive. Non, il va à Tarsis, c'est-à-dire une ville au bout du monde, le plus loin possible de Dieu. Il s'enfuit. Une forte tempête se lève. Sur le bateau, tout le monde a peur. On essaye de savoir qui est responsable de cette tempête. Et le sort désigne Jonas. Alors il suggère aux marins, il leur dit « mais jetez-moi à la mer ». Ce qu'ils font, la tempête se calme aussitôt. Mais Jonas ne meurt pas noyé, parce que Dieu prend soin de lui, il envoie un poisson qui l'avale. Et au fond de ce poisson, dans le ventre de ce poisson, Jonas est dans une grande détresse et il parle à Dieu.
Je suis très malheureux, alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi, je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux, pourtant je crie vers toi.
Nous prions. Seigneur, dans sa détresse, Jonas s'est présenté devant toi, brut de coffrage, sans fioriture, avec ses contradictions, sa mauvaise foi. Il t'a dit tout ce qu'il vivait, sans chercher à faire bien. Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant toi dans l'état où nous sommes, joyeux ou tristes, pleins d'énergie ou découragés. En ce début de culte, nous aimerions te dire ce qui nous habite, te raconter ce qui nous pèse ou nous rend heureux. Je vous invite à le faire dans le secret de votre cœur. Seigneur, nous te confions nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous aimerions connaître ta présence. En restant assis, pour rester dans la méditation et parce que ce chant est une prière, c'est la continuation de notre prière, nous chantons « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ».
Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts et les portes sont fermées à clé derrière moi pour toujours. Mais toi, Seigneur, tu m'y fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors, je me souviens de toi dans ton temple saint.
Seigneur, si Jonas est dans cet état, il me semble que c'est bien sa faute. S'il t'avait obéi, il ne serait pas dans cette situation. Pourtant, il ne dit pas « c'est ma faute, pardon Seigneur, j'irai à Ninive ». Et toi, tu ne le mets pas dans le ventre du poisson pour lui donner une leçon, mais pour le sauver. À bout de ressources, Jonas se souvient de toi. Il se souvient que tu es Dieu, le Dieu dont on ne prononce pas le nom, son Dieu. Moi aussi, Seigneur, quand tout va mal, je veux me souvenir de toi et me tourner vers toi. Debout, parce que le Seigneur nous met debout, nous chantons « Tournez les yeux vers le Seigneur ».
Excusez-moi. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui sauve.
Seigneur, Jonas s'est souvenu de toi et une porte s'est ouverte dans son cœur. Mystérieusement, l'espérance, la possibilité de vivre est revenue. Seigneur, je crois que tu es le Dieu vivant qui sauve, qui me sauve. Nous chantons « Sois mon ancre, ma voile ».
Thank you.
maintenant vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, le Seigneur donne cet ordre au poisson. Rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit.
Et Dieu envoie une deuxième fois Jonas à Ninive. Et cette fois, il y va. Il annonce la destruction de la ville. Très rapidement, les Ninivites croient à la parole de Dieu et entrent dans une période de deuil. Le roi lui-même demande à toute la population d'invoquer Dieu et de renoncer à ses mauvaises actions. En voyant cela, Dieu se repent du mal qu'il voulait leur faire et ne le fait pas. Cela fut très mal pris par Jonas et cela s'échauffa pour lui. Il pria le Seigneur en disant
« S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'en suis venu à fuir à Tarsis. Car je sais que tu es un Dieu qui fait grâce et bienveillance, lent à la colère et abondant en fidélité, et ayant du regret au sujet du mal. Maintenant, Seigneur, prends mon souffle, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. »
Le Seigneur répondit,
« Fais-tu bien de t'échauffer ?»
Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'assit dessous à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu dépêcha un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas se réjouit au sujet de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu dépêcha une larve qui frappa le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu dépêcha un vent d'est brûlant, et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Son souffle demanda à mourir en disant,
« Mieux vaut pour moi mourir que vivre. »
Dieu dit à Jonas,
« Fais-tu bien de t'échauffer à cause du ricin ?»
Il répondit,
« Je fais bien de m'échauffer jusqu'à demander la mort. »
Le Seigneur dit,
« Toi, tu es contrarié au sujet du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, je ne serai pas contrarié au sujet de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. »
Ah oui, je la connais, la question qui habite ce matin tous les passionnés de jardin. Ceux et celles qui écoutent Monsieur le jardinier avant de venir au culte. Et peut-être aussi les personnes qui aimeraient bien ombrager leur terrasse, un peu trop exposée au soleil. Cette question, la voici. Quelle est donc cette plante qui a poussé si vite pour offrir à Jonas une ombre bienfaisante? Quel est donc ce végétal qui lui a fait tant plaisir? Oui, durant cet été, les pasteurs et diacres de la région ont choisi donc le thème des plantes et des arbres de la Bible. Alors il fallait bien que l'un d'eux réponde à cette question capitale. Et le sort est tombé sur moi. J'ai donc été chercher dans les encyclopédies d'arboriculture palestinienne, les livres de botanique et les commentaires bibliques. Je ne vous dis pas ma surprise. Tout le monde y va de son hypothèse, mais personne n'est sûr. Déjà au 5e siècle de notre ère, deux pères de l'Église s'empoignèrent à propos de cette plante. Pour Augustin, il s'agit d'une courge, ou, comme il le dit, cucurbite. Pour Jérôme, on a affaire à du lierre. C'est vrai que les feuilles de courge sont grandes, mais il faut se coucher pour être à leur ombre. Quant au lierre, je trouve quand même que ces feuilles sont un petit peu petites pour jouer au parasol. Alors c'est vrai, la plupart des versions bibliques parlent de ricin, grand arbuste aux larges feuilles et à la croissance très rapide. En effet, le Ricinus communis, comme il s'appelle, pousse vite. Il peut atteindre 7 mètres de haut et il se trouve sur tout le pourtour de la Méditerranée. Mais dans le livre de Jonas, c'est le mot « kikayon » qui est utilisé pour parler de cette plante. Vous l'avez déjà entendu, ce mot « kikayon » ? Jamais ? Vous êtes sûr ? Monsieur, ça vous fait penser à quoi ?
Cet arbre, et puis en plus, c'est une maison d'édition en Italie. Ce sont des livres chrétiens de Beauzé qui s'appellent Kikajo.
Ah, c'est intéressant. C'est une maison d'édition en Italie pour des livres chrétiens, pour le monastère de Beauzé. Alors, je vais encore être un peu plus terre à terre. Le mot Kikajon ou Kikayon, c'est un mot vaudois qu'on utilise pour parler des cabanons de jardin potager. Et en fait, ce mot populaire, je suis vaudois moi-même, en fait, il vient du livre de Jonas. Le problème quand on veut identifier cette plante, est-ce que c'est vraiment un problème en fait, c'est que le mot kikayon ne se trouve que 5 fois dans la Bible, et les 5 fois dans le livre de Jonas. Il n'y a pas d'autre fois ce mot ailleurs dans d'autres livres bibliques, ce qui ne nous permet pas des comparaisons afin de pouvoir identifier cette plante. Bref, je vous apporte ce matin, au terme de cette minute de Monsieur Jardinier, la réponse de Karl Keller, qui était mon professeur d'Ancien Testament pendant mes études de théologie. Lui disait, le kikayon de Jonas, Denise l'a déjà dit, c'est un ovni, un objet végétal non identifié. Avec mes camarades d'études, nous avons bien rigolé, mais nous savions aussi que Karl Keller n'avait pas l'habitude de parler à légère, il était bien documenté, et en plus, avec cette affirmation, il souhaitait nous faire entrer dans le message du texte biblique. Et c'est cela qui est le plus important avant toute autre considération botanique. Le kikayon, un objet végétal non identifié. Dieu a offert à Jonas une plante mystérieuse qui ne peut pas être classée dans une encyclopédie. Cette plante est inconnue, inclassable, et surtout, elle est éphémère. Vous l'avez entendu, Dieu va dépêcher un ver qui va la faire crever rapidement. Nous découvrons ainsi ce matin un immense contraste. Il y a d'un côté la joie de Jonas. Cette plante lui fait un bien fou. Grâce à elle, il a pu calmer la grosse colère qui était montée en lui. Mais il y a aussi la grande dépression de Jonas. Elle survient justement au moment où la plante disparaît. Cette plante était pourtant un presque rien, un végétal inconnu qui vient et qui repart très vite. Elle n'a demandé aucun effort à Jonas, il ne l'a pas cultivé, il n'a rien fait pour cette plante. Mais sa disparition devient un énorme problème pour lui, et vous l'avez entendu, sa dépression devient si forte qu'il demande la mort. Cette plante nous fait réfléchir ainsi à ces petites choses, ces petits événements qui deviennent souvent pour nous des problèmes gros comme des montagnes. N'y a-t-il pas parfois des faits divers de peu d'importance qui peuvent nous faire chavirer le cœur et nous rendre imperméables à d'autres situations plus importantes? N'avons-nous pas tendance parfois à grossir nos petits problèmes et à ne plus voir le reste de la misère du monde? Jonas en est fait pour un ovni qui ne lui a rien coûté, et Dieu alors n'aurait-il pas pitié de milliers d'hommes et de femmes, d'enfants de la ville de Ninive, si grande qu'il fallait 3 jours pour la traverser? Je crois que ce qui se passe entre Dieu, Jonas et cette plante peut nous faire du bien. Nos problèmes de sommeil, de digestion, de santé, de travail, de vie de famille, de communauté, que sais-je encore, ne sont jamais insignifiants aux yeux de Dieu. Il nous accompagne et nous soutient dans ces problèmes et ces soucis qui nous habitent. Mais peut-être que le livre de Jonas est là aussi pour nous dire que Dieu vient parfois nous secouer, comme il l'a fait avec Jonas. Nous devons apprendre avec lui à ne pas voir seulement la plante, c'est-à-dire le problème qui nous touche personnellement et qui nous concerne personnellement. Nous devons apprendre avec le Seigneur à voir plus loin, voir ailleurs pour mettre notre énergie, nos pensées, notre cœur dans des situations qui sont autrement plus importantes que nos petits problèmes personnels. Cependant, certains lecteurs ou lectrices du livre de Jonas trouvent parfois que Dieu joue un peu avec son prophète. Ainsi, il lui demande d'aller annoncer un malheur aux Ninivites, mais ce malheur ne va finalement pas se réaliser. Jonas va tout faire pour échapper à sa mission, et le Seigneur va tout faire pour qu'il la réalise. Et au moment où Jonas se met en colère, il le calme un moment à l'ombre d'une plante pour ensuite la lui enlever. Dieu jouerait-il avec Jonas? Manipulerait-il les événements et les humains? C'est une question que nous pouvons nous poser et qui est difficile. Mais pour découvrir justement que ce n'est pas le cas, je vous invite à revenir au début du chapitre 4, à la colère de Jonas. Pourquoi est-il donc en colère? Beaucoup ont dit « Jonas est en colère parce qu'il aurait vraiment aimé assister à la punition de ces sacrés païens de Ninivite ». Il aurait aimé voir la prophétie de malheur se réaliser. Cette interprétation, à mon avis, est fausse, car ce n'est pas ce que dit Jonas. Jonas dit plutôt à Dieu : « Je savais que tu répugnes à punir la ville, je savais que rien ne se passerait. Ainsi, l'épreuve que j'ai dû traverser, la tempête, le séjour dans le monstre, le voyage à Ninive, la prédication courageuse que j'ai apportée, tout cela a été parfaitement inutile. » Pourquoi m'avoir dérangé pour rien ? Tu es un Dieu qui fait grâce et qui pardonne, qui est long à la colère et riche en bonté. Pourquoi m'avoir exposé alors que de toute manière, tu allais pardonner ? Je le savais, tu es un Dieu qui pardonne. Voilà au fond ce que croit Jonas et ce qu'il exprime. Puisque le Seigneur fait grâce, il n'y a pas besoin de dénoncer le mal et de prêcher la repentance. Il n'est même pas nécessaire d'avertir du malheur qui pourrait survenir, d'annoncer que le Seigneur est en même temps miséricordieux et en même temps intransigeant. Finalement, dans le raisonnement de Jonas, il suffit de laisser Dieu agir et il vaut mieux ne rien faire. Eh bien, je trouve que cette image de Dieu est justement manipulatrice. Jonas a en lui cette idée que Dieu, finalement, peut très bien faire les choses sans nous, sans les humains. Mais Dieu n'est pas comme cela. Et Jonas doit le découvrir. Cependant, et c'est là un aspect très touchant du récit biblique, vous l'avez vu, le Seigneur réagit avec humour, avec respect, pédagogie, avec Jonas. Denise me le disait elle-même, elle aime bien ce Jonas qui ose tenir tête à Dieu, qui exprime ses questions, ses doutes, ses objections. Et avec Denise, j'aime bien aussi cette manière qu'a Dieu de ne pas s'irriter. Oui, Dieu ne se met pas en colère contre Jonas, vous l'avez entendu. Il ne lui reproche pas son attitude. Il aurait très bien pu dire à Jonas, « Homme insensible et aveugle, tu n'arrives pas à te réjouir de ce qu'a provoqué ta prédication ? Tu considères même que ce que tu as fait a été inutile, malgré cette repentance collective ?» Le Seigneur aurait vraiment pu se chauffer comme Jonas et le renvoyer avec sévérité. Il n'en est rien. Il l'écoute. Il lui permet d'être devant lui sans masque, d'être vrai. Il cherche le contact avec lui. Et au moment où la plante crève, il ne laisse pas Jonas dans sa déprime. Il continue de lui parler et il lui laisse une question. Une question comme pour dire à Jonas, « Je te permets d'apporter ta réponse. » Oui, dans tout ce récit, c'est extraordinaire. Le Seigneur agit non pas comme un Dieu manipulateur, mais comme un Dieu qui écoute, qui dialogue, qui est patient, qui cherche la communication avec Jonas, on pourrait dire un excellent pédagogue. Oui, le Seigneur fait grâce. Il est long à la colère et riche en bonté. Mais cette découverte qui est au cœur de notre foi n'est pas une invitation à la passivité ou à une fuite de nos responsabilités. Dieu nous le montre comme il l'a fait avec Jonas. Sa grâce cherche toujours à entrer en contact avec les humains, à les appeler, à les remettre en question, à entrer dans un véritable dialogue qui provoque des changements d'orientation et de vie. Et pour que ce dialogue soit possible, et ça c'est très important dans le livre de Jonas, Dieu a besoin de ses témoins, il a besoin de nous. Ainsi, il faut dire ce matin que la grâce de Dieu ne nous dispense pas, comme Jonas, d'être témoins d'une bonne nouvelle qui vient aussi appeler à la repentance et à un changement de vie. La grâce du Christ ne banalise pas le mal qui existe sur cette terre sous des formes multiples et parfois extrêmes. Mettre en garde, avertir, dénoncer l'aveuglement, l'hypocrisie ou l'injustice, cela ne fait-il pas partie de la mission qui nous est confiée. Vous me direz, mais combien il est difficile aujourd'hui de vivre cet aspect du témoignage. Et je le ressens aussi profondément. J'aimerais mieux parfois fermer les yeux face au mal, éviter d'en parler, éviter parfois de m'indigner face à ce qui se passe autour de moi. Un exemple, quand on voit ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Europe de football et au Tour de France, ces événements tellement médiatisés, tellement fascinants, et qu'on sait que derrière, finalement, il y a tant d'argent et tant de dopage, où plus rien finalement n'est peut-être vrai dans tout ce sport, que pouvons-nous faire ? Uniquement regarder, admirer, nous extasier avec les supporters, aller au bord des routes pour voir passer les cyclistes ? J'aimerais bien parfois pouvoir m'en remettre à Dieu en me disant qu'il va agir à ma place, dénoncer, avertir à ma place. Et puis, il nous arrive peut-être même, comme Jonas, d'être fâchés contre Dieu, au plus profond de nous-mêmes, avec le sentiment que la mission qu'il nous confie aujourd'hui est vraiment trop difficile, pas assez claire ou trop peu précise. Faut-il encore parler de jugement, de repentance et de conversion à l'heure actuelle, alors que même le mot de Dieu met souvent les gens sur les pattes de derrière? Que retenir donc de ce texte que nous méditons ce matin? Avec Jonas, nous découvrons d'abord que nous pouvons être vrais avec ce que nous ressentons, avec les questions et les résistances qui nous habitent. Le Seigneur nous accueille avec nos craintes et nos résistances intérieures. Il ne nous fait pas la morale et ne cultive surtout pas en nous une culpabilité stérile. C'est le premier point. Mais avec Jonas, nous sommes invités aussi à rechercher le contact avec Dieu, le dialogue avec lui, envers et contre tout, à lui confier nos peurs et nos questions, à ne pas nous figer dans le mutisme ou la résistance intérieure, ce que faisait Jonas d'une certaine manière. N'est-ce pas là la première étape pour recevoir le courage d'être vrai et donc ensuite d'être un témoin du Christ vivant? Le troisième et dernier aspect qui me paraît important, c'est qu'avec Jonas, nous avons à découvrir que le Seigneur compte sur nous pour annoncer autant sa grâce que ses exigences, autant sa bonté que sa justice, autant sa patience que sa vérité. Il compte sur nous car il ne veut pas être un Dieu qui manipule, mais en Dieu qui entre en relation pour dialoguer, transformer et conduire vers la vie nouvelle. Amen.
Merci à Jean-Daniel pour ce qu'il nous a apporté. Je vous invite maintenant à un moment de prière personnel, ou si vous voulez le partager, vous pouvez prier aussi à haute voix pour dire, peut-être entrer en dialogue avec Dieu comme Jean-Daniel nous y a invités ce matin pour dire ce que ce message vous a dit. Nous prions. Seigneur, nous connaissons ta grâce et ta bonté, mais nous avons de la difficulté à aller dire l'exigence, à dire ce qui ne fait pas plaisir. Et pourtant, si dans nos vies, tu ne nous avais pas secoués de temps en temps, nous n'aurions pas avancé. Viens nous aider, s'il te plaît. Amen. Amen. Dieu est un Dieu qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne. La Sainte Cène est là pour nous le rappeler. Elle nous rappelle aussi que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de cet accueil de Dieu. Dieu nous accueille avant de nous envoyer. Dieu nous fait du bien avant de nous envoyer. Celui qui prend la Sainte Cène dit, comme Jonas l'a dit au marin quand il lui demandait qui il était, d'où il venait, il a dit « Je suis hébreu ». J'adore le Seigneur, c'est écrit, c'est le nom qu'on n'ose pas prononcer. Les Juifs ont un très grand respect pour Dieu, le Dieu du ciel, celui qui a fait la mer et la terre. Celui qui prend la Sainte Cène dit « Je suis chrétien ». Je crois en Dieu qui m'aime et en Jésus-Christ qui est mort pour moi, parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait que Dieu, son Père, puisse entrer en dialogue avec chacun d'entre nous.
Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, au moment de partager ton repas, viens renouveler en nous ton Saint-Esprit, afin qu'il nous accorde cette grâce qui nous permet, là où nous sommes, d'être porteurs de ta vie et de ton amour, de ta patience et de ta bonté. Ce courage aussi d'être vrai avec nous-mêmes et avec les autres, de parler en vérité, d'oser parfois dire des choses qui peuvent déranger, questionner. Tu sais, Seigneur, combien il est difficile aujourd'hui d'être tes témoins. Avec Jonas, viens travailler en nous pour nous aider à nous laisser visiter, guider par toi, jour après jour. Merci de venir ce matin nous fortifier par ce pain et par ce vin partagé. Amen.
Au milieu des plateaux, dans les petits verres violets, vous avez du jus de raisin. Et si certains d'entre vous préfèrent prendre la coupe, faites-moi signe. Nous prions. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur terre nous parler de ton Père, partager notre vie, nous mettre en vie, nous mettre en route. Ce matin, nous pensons à tous ceux qui sont malades, qui souffrent pour une raison ou une autre, ceux qui souffrent en Allemagne, à Nice, en Syrie, en Libye, en Turquie, partout où il y a des conflits dans le monde. Nous sommes loin, c'est lourd. Seigneur, ce qu'ils vivent est difficile, terrible. Sois avec eux, soutiens-les. Et Seigneur, par solidarité envers eux, nous aimerions dire tous ensemble la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Et pendant, je pense qu'on va faire pendant le chant, Denise, la bienveillance, on fait l'offrande. Ok.
Mieux que tout ce que j'ai vu, ma
Seigneur, nous voulons te remercier et te confions cette offrande qui servira pour la vie de nos églises. Amen.
Michel Serex.
C'est pas la
Voilà, dimanche prochain, nous sommes au CEPOM. Les grillades, c'est dans 15 jours. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Du côté protestant, non. Bon. Alors, nous aimerions beaucoup être bénis avant de nous quitter.
D'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli parmi vous ce matin. C'est un plaisir pour moi de partager ce culte. Je comprends bien que ce récit de Jonas est difficile, nous fait peut-être réagir. Si vous avez envie d'en reparler avec moi à l'issue du culte, c'est volontiers qu'on peut continuer à échanger. C'est important aussi de pouvoir partager des fois des pensées profondes qui nous habitent par rapport à tel ou tel récit. Et ce matin, je ne vais pas vous donner la bénédiction, c'est le Seigneur qui va nous la donner, mais il va nous la donner avec des gestes. Je vais lire un texte et je vous invite à faire les gestes avec moi. Dieu, ta bénédiction est comme une lumière joyeuse, lueur qui traverse nos ténèbres et nous permet d'espérer. Dieu, ta bénédiction est comme la main d'un ami, on se donne les mains, main qui m'encourage, me soutient, main qui partage. Dieu, ta bénédiction est un souffle de vie bienfaisant, souffle qui gonfle mes voiles et me permet d'avancer. Dieu, ta bénédiction est comme un vêtement qui me tient chaud et me protège des intempéries. Dieu, tu donnes à tous ta bénédiction pour qu'à notre tour, nous donnions la bénédiction aux autres. On se donne la main et on lève les mains. Allez dans la paix et dans la joie. Allez partager ce que vous avez reçu. Allez demeurer dans la présence du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.